Donc, je vous redis pour les retardataires qui n'auraient pas lu le programme que je m'appelle Jean Salem et je vais vous parler de l'épicurisme. J'ai intitulé cette causerie l'épicurisme, philosophie des atomes et pensée du plaisir. Pour prendre des repères très très simples, je vous dirais qu'il y a trois grands philosophes dans l'Antiquité grecque et latine qui ont considéré que tout est fait d'atomes, ou plus exactement que tout dans l'univers est soit atome, soit vide, soit plein, soit vide. Et vide, vide absolu, pas vide au sens des physiciens modernes, méfions-nous des homonymies. Très souvent on parle d'annihilation de matière, de création de matière à partir du vide, ce qui fait passer une sorte de grand frisson dans le dos de ceux qui pensent que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le vide des physiciens actuels, c'est de la matière très 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 raréfiée. Le vide des anciens atomistes, qui sont des philosophes, mais des philosophes qui font de la physique, la physique jusqu'au XVIIe siècle, physique fussis la nature, la physique, la philosophie de la nature jusqu'au XVIIe siècle, c'est une partie de la philosophie. Le vide de ces trois anciens philosophes dont je vais vous parler, Épicure en particulier, et son grand disciple romain Lucrèce, c'est un vide absolu, hein, du vide au sens du langage courant, là où il n'y a rien. Alors, on dit que tout, la table, marron, qui a une certaine forme, vous, moi, les animaux, le ciel, etc., l'air invisible aux yeux, que tout est fait d'atomes ou de vide. Tout d'abord, Démocrite, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la partie nord-est de la Grèce, là où c'est presque en face de la Turquie. Au 3e siècle, deux siècles plus tard, en gros, Épicure, qui très exactement est né en 341 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 6 ans après la mort de Platon, et qui est mort en 270 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 30 ans après le début de ce que nous appelons le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis troisième grand atomiste, comme on dit, de l'Antiquité, Lucrèce, poète romain, le plus grand ou un des plus grands poètes de l'Antiquité latine, Virgile, Lucrèce, on a souvent croisé ça au lycée. Lucrèce se veut, il le dit très clairement, disciple fidèle, archifidèle de son maître Épicure, maître qu'il n'a pas connu, puisqu'ils vivent à 150-160 années de distance, mais maître dont il a les écrits et dont il veut être le fidèle témoin, le fidèle traducteur, si on peut dire, puisque lui fait de la poésie latine, alors que Épicure écrivait dans un grec assez austère, assez pesant, un grec de philosophe. Alors, tout ça pour dire que on a affaire à trois esprits assez singuliers, dans leur temps bien sûr, et on n'a tout de même pas affaire à quelque chose d'absolument sidérant. Je veux dire par là que l'atomisme, comme intuition de ce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce qui peut nous frapper, un corps solide, comme intuition de ce que tout ce qui nous environne est en fait fait de petites poussières invisibles agglomérées, c'est tout de même une idée qui, comme par hasard, a germé un peu partout à des époques très diverses et dans des domaines très différents. Il y a un atomisme dans la tradition juive médiévale, il y a un atomisme dans la tradition de l'islam. Ces philosophes s'appellent les Motekalemines ou Motakalimoun, selon les transcriptions qu'on veut, 8e, 12e siècle. Il y a un atomisme indien, la physique jaina, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, considère, disons, que les atomes, ce n'est pas comme les atomes de mon Épicure et de mon Lucrèce ou de mon Démocrite, c'est-à-dire des Grecs. 10 petites billes que vous pourriez mettre dans un verre, si elles étaient visibles, c'est plutôt 10 gouttes d'eau dans un verre, les atomes à l'indienne. Mais enfin, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une poésie qui a germé dans le cerveau de quelques Grecs et de leurs disciples romains, et que ça n'est pas non plus une sorte de poésie philosophique comme ont voulu le faire croire ou voulu le penser certains éminents écrivains comme Gaston Bachelard, qui expliquait qu'à côté de l'atomisme contemporain, ça n'a rien à voir. Ça a à voir, et beaucoup de grands dont on oublie cela ont été d'ailleurs des atomistes au sens scientifique de la science moderne d'après le XVIIe siècle ou au sens philosophique, un peu les deux. Je pense à Kant, dans un livre qui s'appelle Théorie du ciel. Je pense à Newton, dans l'optique, il explique qu'il croit que tout est fait de petits grains de matière. Et j'en oublie beaucoup, qui s'appellerait Robert Boyle, qui s'appellerait Giordano Bruno, qui s'appellerait Francis Bacon, des très grands noms de la philosophie. Alors, j'entre enfin dans le vif du sujet, c'est promis, je vous offre même un plan par défaut professionnel. Je vais rappeler, bien franchement, pas par souci maniaque d'autopromotion, que j'ai travaillé sur ces choses-là et indiqué éventuellement si des choses pourraient vous intéresser. Quel livre accessible aux non-spécialistes vous pourriez voir, sans compter qu'il y en a d'autres que ceux que j'ai fait, bien sûr, sur le même sujet. Je parlerai de Démocrite un peu parce que c'est le père fondateur de l'atomisme grec. C'est un discours très ample, très encyclopédique, très impressionnant. Je parlerai ensuite, très brièvement, de la lettre d'Épicure concernant les grands principes de sa physique. Je m'étendrai un peu plus, disons 20-25 minutes sur l'heure qui va nous occuper ou qui a commencé de couler. Je m'étendrai sur la lettre où Épicure expose, dans laquelle Épicure expose les principes de son éthique, de sa morale. Et puis je vous proposerai un parcours un peu scandaleux en 10-12 minutes d'un sublime poème qui est le poème de la nature, l'œuvre de Lucrèce, disciple fidèle, encore une fois. Donc, pour commencer par l'autopromotion ou la non-autopromotion, j'ai travaillé sur ces choses-là pendant une douzaine d'années. Ça a donné lieu à trois gros livres comparés à d'autres, dont je vais vous parler aussi, parus chez Vrin, librairie, édition, spécialisé dans les ouvrages de philosophie, l'un consacré à Démocrite, l'autre à l'éthique d'Épicure, et l'autre à l'éthique épicurienne telle qu'elle est exposée par Lucrèce. Parce que vous avez compris que dans ces triptyques, Démocrite, c'est l'encyclopédiste, mais il a de commun avec les autres la philosophie des atomes, mais la pensée du plaisir, évidemment, est liée beaucoup plus directement, beaucoup plus intensément à la doctrine d'Épicure. J'ai fait, c'est ça qui pourrait peut-être intéresser pas mal d'entre vous, un bouquin qui résume un peu toutes ces recherches en livre de poche qui s'appelle L'atomisme antique, sous titre Démocrite, Épicure, Lucrèce, qui est paru donc chez Hachette dans le livre de poche, collection référence. Et puis il y a une édition pratique, c'est pas la plus savante, la plus savante est celle de Marcel Conche avec Le Grec en regard. Elle a été rééditée aux presses universitaires de France. Je parle des lettres d'Épicure qui nous restent. Mais moi, j'ai fait une édition beaucoup plus scolaire, qui est destinée surtout aux lycéens, qui, chez Nathan, s'appelle Épicure, lettres. Je passe à la deuxième chose que je voulais dire relativement vite, c'est que Démocrite a donc existé. Et alors, dans l'étude que je lui avais consacrée, je m'étais efforcé de parcourir en 8 chapitres l'essentiel de ce qui nous reste de lui, à savoir dans le corpus de la Pléiade qui s'appelle les Présocratiques, dans le bouquin Pléiade intitulé les Présocratiques, 200 pages de fragments, car nous avons affaire à ce qu'on appelle un présocratique. C'est déjà d'ailleurs assez douteux comme caractérisation. C'est un présocratique qui est mort certainement 40 années après Socrate. Socrate a été condamné à boire la ciguë en 399 avant Jésus-Christ. Démocrite est mort probablement en 360. Mort centenaire, certes, mais enfin il est clair qu'on a fait en sorte, du côté de Platon notamment, d'Aristote également, que la vraie philosophie ne commence pas aux vraies dates, mais commence avec Socrate. Et cette vraie philosophie-là, il fallait absolument qu'elle soit postérieure à quelqu'un qu'on embrigade dans les présocratiques, même dans d'excellents bouquins, alors qu'encore une fois, ce n'est pas vrai historiquement. On préfère signaler que ceux qui sont occupés d'atomes, de matières, de choses un peu lourdes, sont forcément antérieurs, moins subtils que ceux qui ont parlé des idées et de la vie outre-tombe. J'ai parcouru en 8 chapitres ce qu'a dit Démocrite et j'ai promis de ne pas être trop long sur lui. Je vais essayer de tenir ma promesse. Tout d'abord, les principes généraux de l'atomistique démocritéenne. Tout nous dit Démocrite, et vous comprenez bien, j'arrête les parenthèses, que nous parlons avec ces gens-là dont il ne nous reste que des fragments, que de façon indirecte. Ce dont je vais vous parler à l'instant, par exemple, c'est ce que nous dit Aristote sur son prédécesseur Démocrite. On a tout perdu. On a certes 4 pages dont chaque ligne est constituée par un titre d'ouvrage perdu de Démocrite. On s'aperçoit qu'il a fait des bouquins sur les mathématiques, sur l'art militaire, sur les atomes, sur la géographie, un érudit absolument universel, mais de Démocrite directement, nous n'avons rien. Dans la métaphysique d'Aristote, et on passe à des choses plus intéressantes, c'est-à-dire de ce qu'il pensait vraiment, dans la métaphysique d'Aristote, on nous dit que Démocrite pensait que toutes les apparences phénoménales, le blanc, le marron, le rond, le carré, le dur, le mou, etc., se ramènent à 3 sortes de différences entre les éléments dont toute matière composée, dont tout corps composé est fait. Ces différences, et arrive l'analogie avec les lettres de l'alphabet que tous les atomistes reprendront, à qui mieux, ces différences, elles sont des différences entre éléments, entre atomes, selon la forme. Comme A, pensez à un A majuscule, se distingue de N. Elles sont aussi des différences selon l'ordre. Comme AN se distingue de NA. Selon que les petites briques élémentaires sont disposées dans tel ordre ou dans l'ordre inverse, pour prendre cet exemple-là, vous verrez du vert ou du rouge, par exemple. Et puis, dans le rouge, les atomes seront certainement plus pointus, auront des formes plus anguleuses que dans ce qui compose le vert. Et puis, il y a une troisième sorte de différence entre les éléments constitutifs de toute chose, éléments qu'on peut donc retrouver dans les moissons, dans le ciel, dans les animaux, mais selon leur forme, leur ordre, ou la troisième chose que je vais vous dire, ça donne des apparences différentes, c'est ce qu'ils appellent la position, thésis en grec. Eh bien, c'est quoi la position? Tout petit coupage de cheveux en 4. L'exemple que prenait Démocrite, c'est de la même façon que un H majuscule debout, c'est comme ça qu'on écrivait le E long en grec ancien, la lettre état, est différent d'un H majuscule couché sur le long côté. C'est une ancienne graphie du Z en grec. Après, ils ont écrit le Z comme on l'écrit dans l'alphabet latin. Donc, j'insiste parce que ça veut dire que c'est la même briquette qui, selon qu'elle est dans une orientation ou dans une autre, composés, agrégés, entremêlés par des crochets ou je ne sais quoi avec ses voisines, va donner des lieux à des apparences différentes. Forme, ordre, position. Donc, tout dans cette philosophie se ramène à des différences géométriques ou topologiques. Topos, c'est le lieu. Entre des petits grains d'une matière qui est une. Hein. Il faut bien voir cette idée que l'être est à la fois un et sporadique, c'est-à-dire dispersé. Les îles sporades, les îles dispersées. On dit parfois, moi je dis parfois, parce qu'il y a un fragment qui nous dit que l'être est comparable à un tas de pièces d'or, mais pour être plus royaliste que le roi, plus démocritéen que Démocrite, je dirais, l'être est comparable chez Démocrite à un tas de pièces d'or en mouvement. La représentation de l'univers, c'est un mouvement brownien, une agitation éternelle de particules au sein du vide infini, et leur agrégation donne ce qu'on appelle la naissance d'un composé, composé qui peut être un monde, qui peut être un être vivant, et leur désagrégation, c'est ce qu'on appelle la mort ou la dissolution s'il s'agit d'un monde. Alors, je suis tenu d'accélérer, puisque je vais vous dire simplement, ensuite j'examine la cosmogonie chapitre 2 de Démocrite, dans le gros livre que j'ai consacré, et dans la partie qui correspond dans ce livre de poche qui fait une synthèse un peu de ce que j'ai pu raconter sur Démocrite, Épicure, Lucrèce, la cosmogonie, c'est la formation des mondes, d'un monde. La cosmogenèse, si vous voulez, c'est la même racine. Et il y a déjà ces principes tout à fait invraisemblables pour la plupart des anciens chez Démocrite, qui sont les suivants. Tout d'abord, l'univers est infini. Deuxièmement, il y a dans l'univers un nombre infini de mondes. Et troisièmement, notre monde est né un jour par agrégation d'atomes et il se dissoudra un jour. Donc vous avez affaire, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on n'en parle plus alors qu'on trouvait ça merveilleux, c'est l'occasion de parler de Perestroïka, vous avez affaire à une, je cite un commentateur russe de Démocrite, à une vision d'un univers dans lequel se forment, s'assemblent et se désassemblent sans cesse des mondes qui sont les résultats d'une perpétuelle perestroïka, c'est le mot reconstruction, et tous les mondes existants dans cet univers sont le résultat d'agrégations soit d'atomes séparés, soit de débris de mondes désormais disloqués. Donc l'univers est infini, il y a un nombre infini de mondes dans l'univers, et infini, et notre monde est mortel. Mettez en regard pour aller vite, je pourrais en citer 7 ou 8 ou 12, à l'inverse, cette formule de Platon dans le Timée, c'est le dialogue de Platon dans lequel il expose son astronomie, il n'est né qu'un ciel unique, et notre monde est inaccessible à la vieillesse et à la maladie, hein, car des gens comme Platon croient qu'il y a une âme du monde, que la nature tout entière est animée. Bon, troisièmement, il fallait étudier la théorie de la connaissance de Démocrite, j'en dis pas trop autre chose, mais le minimum, puisque le temps passe et puisque ça va nous servir pour parler d'Épicure. Les atomistes anciens, avec des variantes, considèrent que, venant du mur que je vois en ce moment, il y a des fines pellicules faites d'atomes qui se dégagent de la périphérie de ce mur et qui sans cesse viennent m'impressionner, au sens le plus strict, s'imprimer en moi, me bombarder, puisque notre âme, nos organes d'essence sont également des atomes et des trous. Hein. Tout est gruyère et la partie dure du fromage, tout ce qui n'est pas vide, c'est des particules qui bougent tout le temps, même si elles sont enserrées, enchâssées provisoirement dans un composé que j'appelle moi, ou la table, ou le verre, etc. On a parlé, Bergson avait le génie de ce genre de comparaison, c'est lui qui a trouvé cette expression, d'une explication cinématographique de la perception chez les anciens atomistes. Parce qu'en effet, des fines pellicules se détachent sans cesse du mur, elles s'agglutinent d'une certaine façon, je ne les vois pas partir une à une, et pour cause, vous allez me dire, puisque c'est évidemment une explication un peu naïve et fausse, en vérité, c'est un peu comme les 24 images que je vois défiler et qui me donnent une image, mais dans ce sens-là, dans le sens vertical au cinéma, là, dans le sens horizontal, il faut imaginer qu'il y a un amas de fines images qu'on appelle les simulacres, dont la ratatination, dont l'agglomération forme ce que moi je vois, c'est-à-dire une image relativement fixe du mur. Quatrièmement, je parle de la médecine et de l'embryologie de Démocrite. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je vous dis que c'est très intéressant, que ça a des liens avec la médecine hippocratique, et que ce qui marque tout ça, c'est que tout est rationnel, aucune intervention divine dans la génération des enfants. Il y a quelque chose qui sont assez modernes et intéressantes, c'est que Démocrite parle du plaisir de la femme, dit que elle participe à la génération, alors qu'Aristote, comme vous savez, qui pourtant est postérieur, dira que la femme ne sert que de réceptacle, l'homme apporte sa forme dans la génération de nos descendants, la femme a un peu le rôle d'un four, l'homme c'est la forme, la femme c'est la matière, et au contraire, Démocrite considère que c'est simplement une affaire de quantité de semence et de force de la semence du père et de la mère qui, à la suite d'une sorte de combat, de lutte pour l'existence dans la matrice de la femme, donne lieu à un enfant dont on se plaît à remarquer que les oreilles ressemblent à celles de sa mère, le nez ressemble à celui de son père. Autrement dit, il pense qu'il y a des répliques miniaturisées de chaque partie du corps dans la semence de chacun des deux parents et que tout ça entre en lutte et pour des raisons simplement mécaniques. Pour telle partie, l'oreille, c'est la semence de la mère qui a le dessus. Pour telle autre, le nez, c'est la semence du père. Donc tout ça est très rationnel, très matérialiste, même si c'est évidemment naïf de notre point de vue. Sixièmement, une anthropologie. Anthropos, c'est l'homme. Les premiers hommes ne vivaient pas dans un paradis dont on doit avoir la nostalgie. Le progrès, pour beaucoup d'anciens, est en arrière de nous. Un jardin d'Éden avec beaucoup de variantes qu'on trouve le mythe de l'âge d'or, vous avez tous entendu parler de ça. Au contraire, pour les atomistes, les premiers hommes étaient des animaux un peu plus malins que les autres. Ils ont vu que des êtres qui avaient à peu près les mêmes formes qu'eux se promenaient alentour. Ils se sont dit, sans avoir encore le langage, que l'union fait la force, ils se sont rapprochés. Et ils ont commencé à acquérir langage, technique, coutumes, etc. Démocrite disait que nos ancêtres ont appris l'art de l'architecture en observant le travail de l'hirondelle qui fait son nid, l'art du tissage en regardant ce que fait l'araignée. Ils ont eu l'idée de la musique en regardant le rossignol, musique gaie, en écoutant surtout, ou le cygne. Chant triste. Mais tout ça signifie, si vous voulez, que des flux d'atomes, il faut toujours, si vous lisez les textes de ces gens-là, vous dire ça se passe comment en termes concrets, d'après eux. C'est des flux d'atomes, hein, c'est des images qui entrent en nous. Comment on découvre le feu? On voit un éclair ou la foudre qui tombe sur un champ, on voit qu'il se produit quelque chose. L'image, disent certains textes, entrait en eux, chez nos ancêtres, c'est-à-dire ils étaient bombardés visuellement par ce qu'ils voyaient. Et ça leur donnait l'idée, mais pas une idée qui se promène toute seule, c'est des flux d'atomes, encore une fois, de faire un peu pareil. Et c'est toujours le spectacle de la nature entre nous qui gouverne tout. Hein. Donc on ne nous parle pas d'un malin qui tout seul a eu une idée derrière la tête et qui a frotté des silex pendant deux jours. On nous parle toujours d'images, c'est donc des atomes, qui ont signalé que la nature procède de telle façon. Et il s'ensuit tel effet, et c'est ça toujours qui est à l'origine des inventions techniques. Ensuite, j'ai parlé de l'éthique de Démocrite, 7e chapitre, ça peut être très 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 modeste que j'en dis, parce que ça pose beaucoup de problèmes, il y a pas mal de banalités, aucune référence aux atomes, beaucoup de passages qui doivent être interpolés, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent de recueils d'autres philosophes. Il y a des choses intéressantes, mais c'est un statut très compliqué. Les fragments relatifs à la morale, à l'éthique. Et puis 8, j'ai parlé de la destinée, non seulement de la philosophie des atomes, mais aussi de légendes qui ont trait à Démocrite. Par décence, à l'égard des promesses que je vous ai faites, je ne peux pas en dire plus. Vous avez peut-être entendu parler du grand Riard, Démocrite le rieur. On en parle chez Rabelais, on en parle chez Montaigne. C'est un topos, un lieu commun assez connu de la littérature. On pourra en parler dans la discussion si ça vous intéresse. Alors, j'avais fait une autre promesse. J'ai dit que brièvement aussi, j'essaierai de parler de la physique d'Épicure. Donc, deux siècles plus tard, ça va être assez simple, parce qu'en gros, Épicure est démocritain, en physique à quelques nuances près. Ça va être facile, surtout si j'ouvre ce que j'ai sous les yeux, à savoir le plan de sa lettre à Hérodote. Pas Hérodote le grand historien qui vivait deux siècles avant lui, plutôt à l'époque de Démocrite, mais Hérodote, un jeune homme, un jeune disciple qui avait le même prénom. Et ça s'appelle comme ça, la lettre à Hérodote, la lettre dans laquelle Épicure résume les principes de sa physique. Alors il est censé avoir été un polygraphotatos, c'est-à-dire un homme qui écrivait beaucoup, un polygraphe on dit encore. Il aurait composé 120 volumes, mais tout est perdu. Et les étudiants n'ont pas tort de se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur un garçon dont il nous reste trois lettres, Épicure. Mais en vérité, il nous reste plus que trois lettres. On a ces sources directes qui sont absolument minimes, pour ne pas dire ridicules, même si ce sont quand même des résumés de sa doctrine. On a des centaines de pages, parfois des traités entiers, écrits par des gens qui souvent ne tiennent pas Épicure en odeur de sainteté, qui veulent le réfuter, mais qui, parce que ce sont des philosophes, nous font connaître sa doctrine. Il y a des traités entiers de Cicéron, de Plutarque, des mentions chez des dizaines de pères de l'Église de telle ou telle doctrine d'Épicure. Donc il y a une tradition qui a traversé les siècles et qui ne tient pas seulement à ces quelques pages censément authentiques. Alors parlons de quelques-unes d'entre elles, la lettre à Hérodote. Il y a un préambule où Épicure expose son intention de donner un résumé, une sorte de grille de lecture qui puisse servir à peu près dans toutes les occasions de la vie à ses disciples. Alors on est loin du marxisme évidemment, mais enfin il y a tout de même dans cette philosophie d'époque de crise, la philosophie d'Épicure. J'ai eu un lapsus, j'ai dit l'éthique, parce que c'est l'éthique, c'est la morale, l'art de vivre qui devient la chose la plus importante, alors que Démocrite est un encyclopédiste qui essaie de savoir, pour parler simplement, pour le plaisir de savoir. Là, nous sommes après l'effondrement de l'Empire d'Alexandre, l'abaissement des cités grecques, bref, un temps qui n'est pas sans rappeler le nôtre par certains aspects, c'est toujours artificiel et anachronique, mais enfin, si on dit que c'est une époque de crise, on comprend en quel sens je peux dire que ça a une actualité. Alors, quelque chose comme l'idée que, quel que soit l'événement auquel tu puisses assister, la foudre, l'orage, après tout l'empereur Auguste allait encore se réfugier sous l'Élide, après Suétone au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand il y avait un orage, quelle que soit la chose que tu peux observer, pas seulement dans la pratique, dans la fréquentation des hommes, mais dans la nature, il faut que tu sois blindé. C'est un mot d'argot que j'emploie sans arrêt. Le sage de cette époque, stoïcien également, essaie de constituer une sorte de carapace, de blindage. Il faut que rien puisse nous arriver, si on veut être heureux durablement. Pourquoi le marxisme? Parce que, si vous voulez, l'idée d'une grille de lecture laïque, point trop préoccupée des dieux, pour à peu près toute situation, philosophie totalisante, discours global, c'est ça que ça aurait de commun. Alors, cette lettre sur la physique, elle se divise en cinq parties. Tout d'abord, on nous dit que l'univers est infini, que tout est fait d'atomes ou de vide, que les mondes sont en nombre infini, bon, chose que j'ai déjà annoncée chez Démocrite, mais Épicure et Démocritéen en physique à quelques nuances près. La deuxième partie de cette lettre à Hérodote a trait à la théorie de la perception. Vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'il existe des simulacres, c'est-à-dire des fines pellicules qui se détachent de toute chose, qui s'impriment en nous. C'est ainsi qu'on explique le fonctionnement de la vue. Entre nous, chez Épicure, un peu plus naïvement que chez Démocrite, mais je n'entre pas dans les détails. L'audition, c'est également dû à des flux d'atomes. Elle a aussi pour cause un flux, rhéma en grec, qui part d'un objet et qui se propage jusqu'à nous. 1000 arguments tirés de l'expérience, le fait que l'interposition d'un mur arrête le son, le fait qu'après avoir mené une longue conversation, dira Lucrèce, l'épicurien, « je suis fatigué », j'ai perdu de ma substance, sont invoqués pour nous dire que tout ce qui se passe entre une émission de voix ou un son, un coup de marteau, et le fait d'entendre, c'est des transferts de matière. 1000 arguments de ce genre, fondés sur l'expérience, sont employés. L'odorat, et entre nous, là, même le physicien le plus contemporain ne trouvera pas ça ridicule pour l'olfaction. Je sens bien des particules émanant du bon beefsteak quand je sens une bonne odeur de beefsteak. Et les parfums agréables correspondent à l'émanation de particules bien ordonnées, issues du corps odoriférant. Les odeurs désagréables traduisent au contraire un courant de particules désordonnées, certainement plus anguleuses également. Troisièmement, propriété et mouvement des atomes, dans cette lettre sur la physique. On nous dit, c'est un peu nouveau par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et plus naïf, quand je parlais de Démocrite, que les atomes ont trois qualités qui leur sont absolument inhérentes. C'est-à-dire, ils les ont tout le temps. Alors, c'est pas la couleur, c'est pas des tas de choses qu'on appelle en philosophie des qualités secondes, des qualités qui viennent de l'organisation de beaucoup d'atomes entre eux, puis surtout des qualités qui dépendent d'une certaine façon de notre organe d'essence, la manière dont il est fait, et de l'objet, et pas seulement de l'objet. Si c'est pas clair, vous savez que le taureau qui s'énerve devant la cape rouge, je vois en fait en noir et blanc. On est parmi les rares mammifères à voir les couleurs. C'est en ce sens que la couleur est quelque chose qui dépend pas seulement de l'objet lui-même, mais également de la manière dont est fait l'organe de réception qui est en nous. Alors il y a, je reviens au début de ma phrase, trois qualités que tous les atomes ont en commun avec les corps sensibles et qu'ils ont tout le temps. La grandeur, ça nous étonne pas trop, la taille, la forme, et là c'est moins moderne que Démocrite, la pesanteur. Alors Épicure considère que un atome, ça va naturellement, tout le temps, du fait d'un poids qu'il aurait tout le temps, d'un haut absolu vers le bas absolu. On a beaucoup écrit sur le fait que tout ça, ça ne veut rien dire pour un physicien, dans l'infini, un haut, un bas. Ce qui est certain, c'est que Démocrite ne semble pas avoir accordé comme ça la pesanteur comme une qualité éternelle aux atomes. Il semble que pour Démocrite, c'est quand un monde se constitue, il se forme une sorte de tourbillon. Les atomes les plus petits vont par force centripète vers l'extérieur. Ils composent les murailles de feu, les astres qui sont des pierres enflammées qui sont à la périphérie. Et les atomes les plus gros se rassemblent vers le centre et ça donne la Terre. Puisqu'ils avaient tout trouvé, mais ils n'avaient pas trouvé ça quand même, tous ces gens-là pensent en termes de géocentrisme. Ils pensent tous que la Terre est une sorte de cylindre aplati, de tambour au centre, pas de l'univers entier, mais du monde, de chaque monde, et d'une autre en particulier. Dans chaque monde, c'est le même étagement, les mêmes structures. La quatrième partie, c'est la théorie de l'âme, et comme j'ai dit tout à l'heure que la physique est une partie de la philosophie jusqu'au XVIIe siècle, je vous rappelle que pour les anciens, pas seulement les matérialistes comme Épicure, mais Platon également, la psychologie, la théorie de l'âme est une partie de la physique. Si vous voulez parler de la nature, il y a une chose à considérer, une catégorie de choses, c'est l'âme des animaux, l'âme du monde selon Platon, l'âme de l'homme. Alors, quatrième partie de cette lettre sur la physique, on ne doit pas être sidéré de trouver mention de la théorie de l'âme, la psychologie, a fortiori, puisque c'est des atomistes. Ils nous écrivent, ils nous disent, Épicure dit, que l'âme est un corps formé de fines particules disséminées à travers tout l'agrégat, c'est-à-dire tout notre organisme. J'aurais envie de dire tout notre corps, mais vous comprenez que pour ces gens-là, l'âme et le corps, c'est deux corps juxtaposés. C'est des atomes pas exactement pareils, plus subtils, plus ronds, qui se faufilent un peu partout, les atomes de l'âme. Mais tout ça, c'est de la matière. Donc je préfère employer le mot d'organisme quand je parle de la totalité de la personne, pour éviter les confusions. L'âme n'est donc pas un incorporel. Ceux qui parlent d'incorporel, écrit Épicure, pour parler d'autre chose que du vide, parlent pour ne rien dire. Ils pensent notamment à Platon, bien sûr. Et cinquièmement, ils parlent des débuts de l'humanité, l'acquisition des langues, comment les hommes ont commencé à parler. On en reparlera éventuellement, si vous voulez. Et conclusion, car c'est ça qui est au centre de la philosophie épicurienne. Bon, si tu t'imprègnes bien de tout ce que je viens de dire, dans ce résumé, tu auras trouvé la méthode du bonheur. Et la physique, comme on dit souvent dans l'épicurisme, est en vue de l'éthique, en vue de la recherche de la paix de l'âme, en vue des préoccupations morales. On ne fait pas de la physique pour avoir une solution parmi d'autres qui nous tranquillise. On fait de la physique pour connaître la vérité sur la foudre, sur le tonnerre, sur les tremblements de terre, sur les mouvements des astres qui causent tant de superstitions. Et une fois qu'on connaît ça, on aura des appuis solides pour méditer sur le sens de la vie, ce qui nous attend après la mort, etc. Alors c'est là que Je voulais être plus long, mais je vais feuilleter, disons, un peu plus sérieusement, la lettre à Ménécée, la lettre sur la morale, qui est le compendium, le résumé, le concentré de la morale épicurienne. Vous savez que c'est un chichi qui a beaucoup occupé les gens pendant les 20 dernières années où on a eu les oreilles rebattues par un certain discours moralisant. Il ne faut pas faire une différence qui empêche de dormir entre morale et éthique, mais c'est vrai qu'on parlera plutôt de morale religieuse, de morale kantienne, avec au centre le concept de devoir, conscience qui me dit « tu dois ». On parlera plus d'éthique quand on parle des anciens en général, et notamment de l'épicurisme, parce que je dirais c'est une morale sans obligation ni sanction. Il ne s'agit pas d'une prédication qui vous enjoint de faire ceci ou cela, il s'agit, chez Épicure en tous les cas clairement, d'un calcul qu'on vous propose. Fais tes comptes, tu verras que c'est ce qu'on dit qui te donnera la vie heureuse, et pas ce que disent les autres, ou pas ce que font les autres, qui ne prennent même pas le temps de penser à leur vie. Alors, la lettre sur l'éthique ou sur la morale, c'est pas bien grave, disons sur l'éthique, parenthèse dans la parenthèse, vous savez que c'est le même mot, hein, ethos en grec ça veut dire les mœurs, et mos qui donne morale en latin ça veut dire les mœurs. Elle s'appelle la lettre à Ménécée, M-E-N-E-C-E-E. Alors encore une fois, c'est un illustre inconnu, un jeune disciple à qui il donne un résumé de sa morale. Si la lettre à Hérodote, qu'on a parcourue à toute vitesse, donne les éléments de la physique, en grec stoikeia, les éléments, la lettre à Ménécée donne les éléments stoikeia, qui peut aussi désigner les atomes, ou en tout cas on trouve atoma stoikeia, ça va donner les briques, les éléments, les atomes, si j'ose dire, de la morale. Et ça va s'opposer, de même que les atomes physiques s'opposent au vide, au rien, au néant, à l'espace vide, ça va s'opposer à ce qu'en grec Épicure appelle « kenai doxai », les opinions vides. On traduit parfois les opinions vaines pour que ça passe mieux en français, mais sachez que c'est le même mot que « kenon » qui désigne le vide, l'espace vide de la physique. On va essayer de tenir un discours plein et de mettre de côté tous les discours creux ou vides. Que nul étant jeune, c'est comme ça que commence la lettre, je commence à vous faire entendre des textes, parce que c'est ça qui est le plus rigolo, pour Lucrèce ce sera ça essentiellement, je lirai deux textes et je parcourrai l'affaire scandaleusement en 8 ou 10 minutes. Que nul étant jeune ne tarde à philosopher, ni vieux ne se lasse de la philosophie, c'est le préambule, car il n'est pour personne ni trop tôt ni trop tard pour assurer la santé de l'âme. Celui qui dit que le temps de philosopher n'est pas encore venu ou qu'il est passé est semblable à celui qui dit que le temps du bonheur n'est pas encore venu ou qu'il n'est plus. De sorte que ont à philosopher et le jeune et le vieux. Celui-ci, pour que, vieillissant, il soit jeune en bien par la gratitude de ce qui a été, celui-là, le jeune, pour que jeune, il soit en même temps un ancien par son absence de crainte de l'avenir. Il faut donc méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. Je dirais plusieurs choses, quatre ou cinq, à propos de ce début. Tout d'abord, l'éthique épicurienne ressemble à une éthique d'extrême urgence. On nous dit qu'il faut très vite s'exercer à la philosophie, car la philosophie est un art de vivre heureux suite à des raisonnements. C'est un art qui, par des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Je vous signale cette très belle pensée qui est à fournir à certains cadres supérieurs qu'on croise au moins à la télévision tous les jours. Nous sommes nés une fois, il n'est pas possible de naître deux fois, et il faut n'être plus pour l'éternité. Toi pourtant qui n'es pas de demain, tu ajournes la joie, la vie périt par le délai, et chacun de nous meurt affairé. Ça c'est des petites sentences éparses qui sont en dehors des trois lettres, et qu'on a également retrouvées. Deuxièmement, l'éthique épicurienne se présente comme une médecine de l'âme. De même que le médecin s'occupe des maladies du corps, le médecin des âmes n'est autre que le philosophe. Vin, V-A-I-N, vide, dit le grec, d'Épicure, ailleurs encore, cité par un autre, c'est pas dans mes lettres. Vin est le discours du philosophe par lequel l'homme n'est guéri d'aucune passion. Car de même que la médecine n'est d'aucun secours si elle ne guérit pas les maladies du corps, de même aussi la philosophie si elle ne chasse pas la passion de l'âme. Vous remarquez que l'éthique épicurienne proclame l'inutilité de ce qu'on appelait la paideia, c'est-à-dire l'éducation traditionnelle, au point que les adversaires se sont complus à parler d'un ignorant, etc., à propos d'Épicure, d'un homme qui n'était pas cultivé, pas comme il faut. Chez Platon, les meilleurs d'entre les gardiens de la cité idéale, c'est-à-dire d'entre les soldats, vont être mis au travail à grosse dose. Ils étudieront la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, etc. Et dans les meilleurs de ces meilleurs, on prendra les philosophes rois qui gouverneront la cité. Platon écrit au livre 6 de sa République, « Passé 50 ans, après avoir servi 10 ans l'État, ils auront fini à peu près 40 ans leurs études, passé 50 ans, ils pourront faire de la philosophie à temps plein. » Là, à l'époque qu'on appelle hellénistique, après l'effondrement de l'Empire d'Alexandre, on a affaire à des philosophies de crise et on vous dit qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour s'y mettre. Et il faut s'y mettre tout de suite. Je peux mourir pendant que j'apprends la géométrie. Donc, la science suprême étant l'art de vivre, c'est pas la peine de faire effort, de s'user, comme dit un texte latin épicurien, à parcourir toutes les branches de l'encyclopédie du savoir. Et on parle même d'un grand mathématicien qui s'appelle Polyène, qui aurait fermé tous les traités de mathématiques du jour où il s'est converti, car c'est quasiment une conversion à l'épicurisme. Conversion au sens où on change de vie, hein. On vit dans un jardin qui est à l'extérieur d'Athènes, en communauté. Il y a là des femmes. Les adversaires de l'école ont dit que ça n'était que des prostituées. Ce qui est certain, c'est que des femmes athéniennes changeant de vie et vivant de la sorte, ça ne devait certainement pas être très pensable. Donc on ne sait pas très bien si c'est seulement une calomnie ou partiellement. Il y avait des esclaves qui présidaient à tour de rôle les discussions philosophiques dans l'école d'Épicure. Mais je veux dire encore une fois qu'il s'agit d'une conversion. Hein. Ce n'est pas faire de la philosophie à telle heure dans telle salle deux fois par semaine. C'est changer de vie, être un disciple, pas seulement d'Épicure, de tous les philosophes anciens. Différer de philosopher, c'est donc différer d'être heureux. Et je vous dis en passant, puisque je dois passer au vieil homme, pas ici, mais ailleurs, la philosophie épicurienne conseille la réminiscence affective. C'est-à-dire qu'elle considère la philosophie épicurienne que si tu as su jouir des plaisirs qu'on peut avoir quand on n'est pas vieux et souvent affaibli, tu as fait provision de ces plaisirs et tu pourras toujours contrebalancer le délabrement, voire la douleur physique, par la remémoration des plaisirs que tu as pris et que tu as conservés d'une certaine façon dans ton âme, l'âme étant des atomes. Épicure qui lui-même souffrait de 2-3 maladies douloureuses, maladies de la pierre, etc., quand il était âgé, écrit dans une certaine lettre à un disciple qui s'appelle Idoménée, j'ai beaucoup souffert hier, le souvenir des discussions amicales et philosophiques qu'on a eues deux jours avant, en grec c'est antiparetateto, a contrebalancé ma douleur physique et ça m'a fait beaucoup de bien. Le sage dispose toujours d'une provision assez grande de plaisir pour contrecarrer, contrebalancer la douleur présente, surtout que cette douleur, généralement, est celle du corps. Or, le corps, il est lié au présent, et la douleur est le plaisir du corps, tandis que l'âme, qui est faite d'atomes, certes, elle est ouverte vers trois dimensions, le futur, le présent et le passé. Les quatre parties de cette lettre à Ménécée, elles sont le délayage, le déploiement de ce qu'on appelle le tétrapharmacon, c'est-à-dire le quadruple remède. Deux mots là-dessus, il y avait dans la pharmacopée ancienne un remède fait de suif, de pois et de deux autres composantes qu'on appelait le tétrapharmacon, le quadruple remède. Mais ce quadruple remède, c'est une sorte de petit résumé poétique de l'ensemble de la morale d'Épicure. Son école qui a duré tout de même 7 siècles, du 3e avant Jésus-Christ jusqu'au 4e après Jésus-Christ, elle a eu des petits, elle a fait des petits, forcément, et on trouve par exemple dans la Cappadoce actuelle, en Turquie donc, dans la Turquie actuelle plutôt, dans la région qui s'appelait déjà la Cappadoce, des inscriptions d'un riche épicurien qui avait les moyens, qui datent du 2e siècle après Jésus-Christ, donc 5 siècles après la fondation de l'école. Et il y a entre autres ce quadruple remède, il n'y a rien à craindre des dieux, il n'y a rien à craindre de la mort, on peut supporter la douleur, on peut atteindre au bonheur, ou atteindre le bonheur, comme vous préférez. Il n'y a rien à craindre des dieux, il n'y a rien à craindre de la mort, on peut supporter la douleur, on peut atteindre au bonheur. Le haut est un peu plus poétique, et surtout c'est comme ça que traduit Nisan. Je n'ai pas fait de publicité pour beaucoup d'autres, je vous signale les matérialistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure, Lucrèce, livre de Paul Nisan, bien connu pour bien d'autres raisons, qui est une excellente petite introduction à tout ça aussi. Réédité plusieurs fois chez Harlay, auparavant chez Maspero, etc. Donc, allons voir les 4 parties de cette lettre qui délayent ces 4 petites annonces de cette sorte de petit quatrain. Il n'y a rien à craindre des dieux. Alors, il y a un indéniable paradoxe, c'est qu'on a affaire à une théologie matérialiste. Les épicuriens ne sont pas athées. Ils considèrent qu'il existe des dieux dans ce qu'ils appellent les intermondes, faits d'atomes, comme tout ce qui bouge, qui ont la propriété, que c'est ça qu'ils ont de supérieur à nous, de se régénérer, parce que moi surtout qui parle beaucoup, la table, tout le monde, tous les corps de la nature, notre monde en entier, puisqu'il s'agit de gruyère, mais fait de matière très en mouvement, tous ces objets, tous ces composés perdent sans arrêt des atomes. Mais ils en capturent également. Il y a des atomes de l'air environnant qui s'associent au mouvement des atomes périphériques de la table. Sans parler des fameux simulacres qui sont des émanations continues. S'il y a un être qui perçoit, un animal ou un humain qui passe devant, ça signale qu'il y a sans arrêt des échanges entre la structure intime d'un corps et son environnement. Alors les dieux, ils ont cette faculté de se régénérer toujours autant, si vous voulez, qu'ils perdent. Nous, quand on grandit, on absorbe plus d'atomes qu'on en rejette. Ensuite, on commence à décliner, c'est l'inverse. Une table ne se pose même pas ce genre de problème. Elle s'érode, elle s'use. Et ça fait partie des preuves de l'atomisme. Lucrèce explique que si tu vois des statues à l'entrée des villes qui ont la main abrasée, érodée, c'est qu'à force de déposer des baisers, les fidèles ont enlevé à chaque fois un peu de poussière, tu vois bien que tout est fait d'atomes. Si les dalles des routes sont usées, c'est parce qu'à force de marcher dessus, on a enlevé toutes les aspérités, etc., etc. C'est-à-dire des petites poussières invisibles. Les êtres divins, c'est des êtres qui ont la faculté de se régénérer de manière à compenser sans arrêt les pertes atomiques que subissent tous les composés. Ces corps sont conçus par des Grecs, et les corps des dieux, tenez-vous bien, sont donc nécessairement anthropomorphes, selon les épicuriens. Ils ont la plus belle des formes, donc c'est la forme humaine. Bref, ils sont incorruptibles, impérissables, immortels. Mais alors, et c'est assez compliqué, on a le droit d'avoir froid. On a le droit. Je croyais que vous vouliez me parler, pardon. Donc, les dieux se régénèrent, je me trouble moi-même, qu'est-ce que je vous disais, c'est pas bien grave, c'est pas loin de ce que j'ai oublié. Les épicuriens ont une doctrine tout de même assez compliquée, parce qu'ils nous disent que lier l'idée des dieux à l'idée de récompense, de châtiment outre-tombe, ils sont contents quand on leur fait des sacrifices, etc., etc., ils nous assurent de la vie outre-tombe. Tout ça, ce sont des croyances populaires, absurdes, ridicules, qui n'intéressent pas l'épicurisme, ils n'y croient pas. L'épicurien croit qu'après notre mort, c'est la dissolution qui nous attend, la fin de la conscience individuelle, etc. Que les dieux ne sont absolument pas sensibles aux gentillesses ou aux prosternations qu'on pourrait faire devant leurs autels. Mais en même temps, ils invoquent le fait que tous les peuples croient en Dieu pour dire « forcément, ça signifie qu'il y a des images qui nous viennent des dieux et qu'il doit y avoir derrière ces images des êtres réels ». L'histoire de la philosophie ancienne, surtout, ça consiste à bricoler en se disant « mais pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Est-ce que c'était pour être bien vu dans la cité ?» Il semble que non. Je dirais plus précisément ça tout à l'heure. Et pour le dire très vite, je vous signale qu'il y a des papyrus à Herculanum qui ont été enfouis par l'éruption de 78-79 du Vésuve, où il y a toute une bibliothèque épicurienne, et il y a des disciples d'Épicure qui nous disent qu'Épicure disait vraiment qu'il fallait aller aux cérémonies religieuses, pas seulement pour la montre, par prudence, devant les autorités, mais parce que ça élève l'âme. La seule solution en histoire de la philosophie, si on essaye de dire mais pourquoi ils ont donc été chercher cette bizarre doctrine, la plupart de ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort ne se sont pas beaucoup souciés de l'existence des dieux, Démocrite sans doute était athée lui-même, on pourrait dire peut-être parce qu'il faut dans l'épicurisme des modèles du bonheur. D'où c'est donc que l'idée du feu est venue à nos ancêtres. Ils ont vu le spectacle de la foudre et les effets qu'elle produit. Ou alors ils ont vu, dit Lucrèce l'épicurien, le frottement de branches sous l'effet du vent qui finissent par s'enflammer. Encore une fois, il n'y a jamais eu un génie qui s'est dit « Eureka, je vais frotter des silex et peut-être que comme ça je ferai du feu et ça permettra de chauffer ». Il faut que l'idée entre en nous. Elle vient jamais de nulle part, ou du cerveau, une idée pour l'épicurien. Alors comment Épicure a-t-il pu nous enseigner la doctrine du bonheur ? Il fallait qu'il y ait des êtres heureux quelque part pour lui montrer le modèle. C'est une des solutions qui n'a rien de génial, mais qu'on est obligé d'imaginer pourquoi c'est Dieu dans cette doctrine. Deuxièmement, c'est moins tordu, et puis ce que je viens de dire n'empêche pas des féroces attaques contre la religion telle qu'elle est institutionnalisée. Il y a un vers de Lucrèce qui résume tout. Après qu'il a rappelé le sacrifice d'Iphigénie dans l'Iliade, pour que les Grecs aient un vent favorable, il faut absolument trucider une princesse de sang royal. Ça sera la fille du chef de la flotte grecque Agamemnon. Après avoir rappelé ça, Lucrèce s'exclame, ça a été le cri de guerre de 1000 pourfendeurs des religions ensuite, d'Holbach, 18e siècle et beaucoup d'autres, « Tantum religio potuit suadere malorum », tant la religion a pu inspirer de crimes, puisque c'est les prêtres qui ont demandé ce crime contre l'enfant d'un père. C'est Agamemnon qui doit sacrifier sa propre fille. Deuxièmement, il n'y a rien à craindre de la mort. Vous connaissez ce texte assez stupéfiant, tout le monde l'a croisé un jour. Je le lis simplement pour aller vite, pour vous parler des deux dernières parties et pour survoler Lucrèce. Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous. On traduit souvent « n'est rien pour nous ». Car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la droite connaissance que la mort n'est rien par rapport à nous rend joyeuse la condition mortelle de la vie, non pas en ajoutant un temps infini, mais en ôtant le désir de l'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie pour qui a vraiment compris qu'il n'y a rien de redoutable dans la non-vie. Montaigne dira ça joliment, qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Sot est donc celui qui dit craindre la mort, non parce qu'il souffrira lorsqu'elle sera là, mais parce qu'il souffre de ce qu'elle doit arriver. Car ce dont la présence ne nous cause aucun trouble, à l'attendre fait souffrir pour rien. Ainsi, le plus terrifiant des mots, la mort, des mots M-A-U-X, n'est rien par rapport à nous, puisque quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Elle n'est donc en rapport ni avec les vivants, ni avec les morts, puisque pour les uns, elle n'est pas, et que les autres ne sont plus. Ça peut paraître sophistique, ça peut paraître un joyeux mélange de trois sens du mot mort, c'est-à-dire la condition posthume, la condition du cadavre, le moment du décès, ça fait souffrir à l'attendre. Il y a un jour où je risque de savoir que c'est le jour inévitable. Et puis, la pensée anticipée de la mort, le fait que les hommes savent qu'ils sont finis. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'être sauvé, mais je dirais pour sauver les meubles, pour marcher avec le texte avant de le critiquer, il faut se dire qu'il y a une tentative assez radicale de vaincre la tripe par le raisonnement. Les épicuriens ne disent pas qu'elle est absolument impensable pour eux, la grande trouille, la grande terreur dont parle Sartre, par exemple, dans Les Mots, quand il était adolescent, il se réveillait en transe, en pensant au néant. Ils essayent d'évacuer ça par des arguments rationnels. On pourra en reparler. Troisième partie de la lettre et troisième petit vers, si je puis dire, ou ligne de mon petit quatrain du quadruple remède, on peut supporter la douleur. Ça fait référence essentiellement à cette classification assez célèbre des désirs que font les épicuriens. Il y a des désirs qui, d'après Épicure, sont naturels et nécessaires, ah, c'est ceux de la faim, de la soif, du vêtement. Mais pas seulement, il ne s'agit pas seulement d'une hygiène qui vous conseille sauna et pain suédois. La philosophie, c'est-à-dire l'art d'être heureux, de la sagesse, et l'amitié sont également l'objet, selon les épicuriens, de désirs absolument indispensables. Pas pour vivre demain, à la différence de la soif, mais pour vivre heureux. Il y a des désirs, deuxièmement, qu'il appelle naturel mais non nécessaire, c'est-à-dire pas indispensable. On peut se passer de leur satisfaction, mais ils sont absolument naturels. C'est évidemment tout d'abord le désir sexuel, et d'autre part, le désir des choses belles, très important chez les Grecs. Pour ce qui est du désir sexuel, j'en reparlerai deux minutes, des humeurs, des modifications physiologiques, ce serait une ânerie de ne pas dire qu'il s'agit d'un désir naturel, mais sans parler de la sublimation dont parle Freud, on va dire à la grecque, en faisant une bonne promenade en montagne, ça peut s'atténuer, provisoirement. Et puis, mais tout ça, c'est de toute façon présenté comme dans le gros paquet des désirs naturels. Les uns nécessaires, les autres non nécessaires. Et puis, grand 3, dans d'autres présentations, c'est grand 1, petit 1, petit 2, et puis de l'autre côté, grand 2, enfin, de l'autre côté, les désirs vains, les désirs vides, qui sont soit, pour jargonner un peu, le résultat de l'infinitisation, hein, parce que ce qui est naturel est borné, je peux boire jusqu'à plus soif. Je vais le faire un peu, d'ailleurs. Mais... ça, les désirs vains sont le résultat soit du passage à l'infini, à l'illimitation, de désirs naturels et nécessaires, bafrerie tous les soirs, et les épicuriens ne vous diront jamais que vous ne prenez pas de plaisir si vous vous goinfrez. Mais les petits matins sont pénibles, le corps prend de l'embonpoint. Épicure ose écrire une certaine dynamique théorique, a dit un commentateur, je crois que c'est vrai, encore aujourd'hui. Dans cette philosophie, Épicure déclare quelque part « Si les débauchés n'avaient aucune crainte au sujet des dieux, au sujet de la mort, s'ils pouvaient supporter la douleur, toujours le petit couplet à quatre temps, et s'ils pouvaient atteindre le bonheur, on se réglerait sur eux. La notion de péché est impensable dans cette doctrine. Mais résultat des courses, pour parler familièrement, total des dégâts, si on fait son compte, si on fait le calcul des plaisirs et des peines, comme nous savons que les petits matins sont difficiles pour ceux qui mettent les bouchées doubles, comme disait déjà Démocrite, on essaiera d'avoir une vie un peu autre. Les désirs vains peuvent résulter du passage à l'illimitation, de l'infinitisation de désirs naturels et non nécessaires. Pensez... un donjuanisme très très basique, enfin une frénésie côté sexualité, et puis les désirs vains peuvent être évidemment, et c'est ça le cas le plus fréquent, des désirs vains a principio, dès le principe, vide dès le départ, le désir de tout ce qui ne peut pas trouver de satisfaction, au sens latin, satis c'est assez. C'est jamais suffisant, le désir de gloire, de domination, de richesse, etc. Quatrième et dernière partie, en gros c'est ce qui pourrait être chapeauté par le titre « On peut atteindre le bonheur ». Pour aller vers la fin de mon exposé, je vous passe les détails et je vous dirai que c'est essentiellement une récapitulation de tout ce qui vient d'être dit. Il n'y a personne qui peut être plus blindé, pour reprendre mon mot d'argot, mais c'est l'idée, que celui qui est convaincu de ce que j'ai dit au sujet des dieux, de la mort, etc. Hasard, s'écrit un disciple d'Épicure, je suis inaccessible à tes attaques. Ça ne veut pas dire je ne peux pas mourir, ça ne veut pas dire on ne peut pas me couper un bras dans une bataille ou dans les occasions de la vie. Ça veut dire que c'est moi qui ai donné une forme à ma vie, qui donne une forme à tous les événements qui peuvent m'arriver, y compris les pires. Il me reste donc à parcourir Lucrèce, comme j'ai dit, et deux textes suffiront, et quand même l'évocation du plan de ce poème. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, c'est deux après-midi. Vous avez une très très bonne édition en Garnier Flammarion, GF Flammarion, traduction de Madame Camille Turpin, qui est plus précise que celle que j'ai sous les yeux, mais celle dans laquelle j'ai travaillé et où j'ai mes petits repères et mes petites manies, et qui est aussi peut-être un peu plus poétique, c'est pourquoi je l'ai prise, c'est celle d'Alfred Ernoux, dans Les Belles Lettres, plus ancienne. Si vous l'avez, mais alors seulement le texte français, pas le latin en face, dans la collection Tel Gallimard, cette version d'Ernoux. Mais le plus pratique, ce que les étudiants s'arrachent, c'est la traduction de Madame Camille Turpin en GF Flammarion. Vous avez également le latin, et c'est très précis. Cinq dernières minutes. Une minute pour vous parler du plan. Lucrèce, qui vit à la fin de la République, à Rome, époque de guerre civile, de troubles. En gros, il doit être né vers 95 avant Jésus-Christ et mort vers 50 avant Jésus-Christ. On compte à reculons, bien sûr. Vie très courte. Ses adversaires ont dit que certainement il s'est suicidé. En tout cas, vie très courte. On n'en sait rien. On ne connaît pas bien l'homme. Et le poème est fini d'ailleurs un peu bizarrement. On dirait une œuvre qui n'est pas achevée et qui est un peu laissée en route. Tout ça pour amener lentement l'idée que Lucrèce est un épicurien. On ne peut pas trouver une thèse qui contredit l'épicurisme authentique. Mais il est clair qu'il était plus tristouné, plus mélancolique individuellement que son maître. Certaines parenthèses, certaines images le donnent à penser clairement. Cette fin bizarre aussi dont je vais reparler. Mais enfin, tout ça pour dire simplement qu'il y a eu les guerres civiles vers les années 80 avant Jésus-Christ, entre Marius et Sylla. En 72, je crois, c'est 6000 esclaves qui se retrouvent les bras en croix sur la Via Appia, la voie appienne, c'est-à-dire la révolte de Spartacus, la conjuration de Catilina vers 63 avant Jésus-Christ, ensuite de nouveau les guerres civiles entre les partisans de César et de Pompée, ça doit être l'époque de la mort de Lucrèce. Bref, une époque d'effondrement, encore une époque de crise qui est comme un écho à celle dans laquelle a vécu Épicure. Il propose un poème en six chants, 3x2, c'est la structure. Le chant 1 et le chant 2 nous parlent des principes généraux de la physique épicurienne, avec pas 1000 mais 100 arguments du type de ceux que j'ai dit tout à l'heure. Si ce qu'on dit était faux, alors on devrait observer ceci. Or, on observe le contraire dans l'expérience, donc ce qu'on dit est vrai. Exemple. S'il n'y a pas de vide, comme disent les stoïciens, comme dit Platon, comme dit Aristote, alors il n'y aurait pas de mouvement. Or, nous observons que ça bouge, dans l'expérience, il y a du mouvement. Tu ne peux pas expliquer le mouvement s'il n'y a pas de vide, donc il existe du vide. Et vous avez un martèlement en vers latin, c'est très joli, vous n'êtes pas sonné par un discours philosophique, ardu, etc. C'est ça la difficulté pour expliquer Lucrèce, c'est que c'est tellement beau et poétique qu'il faut entendre la technicité de l'épicurisme sous la belle phrase. Donc, je vous conseille la lecture de ça. Les deux premiers chants parlent des principes généraux de la physique d'Épicure, les atomes, le vide. Les chants 3 et 4 parlent de l'âme. Le chant 3 est réservé à l'étude de la structure de l'âme humaine, au fait qu'elle est matérielle, avec des superbes arguments, regarde l'épilepsie, regarde l'ivresse, des modifications corporelles ou l'absorption d'une liqueur qui se touche, ça chamboule complètement l'esprit de celui qui est sujet à l'ivresse ou à l'épilepsie. Il y a des maladies de l'âme, il y a des maladies du corps, les rythmes sont comparables, on a rarement vu la sagesse d'un vieillard de 70 ans avec greffée sur le corps d'un enfant de 7 ans, etc. Et donc, dit le vers 830 de ce chant, début de la troisième partie, l'âme est matérielle, grand 1, dans le chant 3, grand 2, donc elle est mortelle, grand 3, donc la mort n'est rien pour nous, et elle ne nous touche en rien. C'est la reprise stricte de ce que je vous ai lu dans la lettre d'Épicure, avec une dizaine de très beaux arguments. Si tu es transi de terreur en imaginant que ton cadavre va être picoré par les oiseaux ou déchiré par les bêtes fauves, en fait, à ton insu, le texte latin dit « inscius ipse ». On n'a pas le droit de dire inconsciemment, parce que les puristes vous diront qu'il n'y a pas d'inconscient chez les anciens, évidemment, mais c'est quand même pas loin. Inconsciemment, tu te dédoubles, tu te projettes devant ton corps mort, toi qui es vivant, et tu te mets à pleurnicher. Mais dans la vraie mort, il n'y aura pas un spectateur larmoyant pour observer ton cadavre qui ne sentira plus rien. Il y a une foule d'arguments très beaux de ce style. Le chant 4 parle toujours de l'âme, mais il s'élève par une gradation très très futée de la théorie de la perception, comment je perçois le mur, les images, les simulacres, je vous ai déjà dit deux fois. Ça s'élève doucement aux fausses perceptions qu'on a dans les rêves, et puis à l'étude dans la fin du chant 4 de ce rêve éveillé qui est le rêve de l'amoureux transi. Les épicuriens sont philosophes du plaisir, ils considèrent que le souverain bien, comme disent les anciens, le bonheur réside dans le plaisir, pas n'importe lesquels, il faut faire le tri. Tout plaisir est un bien, mais on l'a vu tout à l'heure, la baffrerie quotidienne, c'est pas forcément ça qui donnera le plus de bonheur dans la durée. Mais il y a un rêve éveillé que tout le monde connaît, souvent éprouvé lui-même, c'est le rêve de l'amoureux transi. Et donc il y a des passages célèbres qui sont passés même jusque chez Molière, sur le fait que l'amoureux enjolive tout, il embellit une personne très quelconque, il est obsédé par les images de sa belle, il faut toujours penser en termes d'atomes, loin des yeux, loin du cœur, il faut savoir mettre un peu de distance si on est dévoré par cette passion. Les épicuriens préconisent, encore une fois, ils ne vous ordonnent pas, vous faites comme vous voulez, mais ils disent qu'on s'en tire mieux si on cultive ce qu'ils appellent la Vénus vagabonde, la Vénus des rencontres, c'est-à-dire un amour qui n'est pas celui de l'amoureux transi. C'est pas interdit. Dans le jardin d'Épicure, il y avait des couples mariés. Est-ce que ça veut dire absolument fidèle, exclusivement, j'en sais rien. Mais il ne s'agit pas d'une prédication. Il s'agit d'un calcul rationnel. Les chants 5 et 6 parlent de la formation de la Terre au sein du monde, de la Terre, de notre Terre, de l'apparition à partir de la terre, sans intervention des dieux, sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, des premières espèces vivantes, et puis de leur développement, du développement de l'humanité, de la découverte des techniques. Et puis, il y a une foule de phénomènes effrayants, le tonnerre, les tremblements de terre, etc., qui sont expliqués par plusieurs hypothèses. Les épicuriens s'en fichent un peu de savoir quelle est la bonne. Ils disent c'est de telle ou telle ou telle façon, mais c'est toujours évidemment des explications compatibles avec l'atomistique. Je m'explique. La foudre qui terrorise tellement d'humains, ça peut être dû à la collision de deux nuages qui en viennent à s'embraser, ou bien il y a, deuxième hypothèse possible, du feu précontenu dans un nuage, et puis ça explose contre une montagne, poussé par les vents, le nuage cogne une montagne. Et puis, il pourrait y avoir d'autres explications, que seulement le mythe soit exclu, disent souvent ces listes, pour terminer. Ça, c'est pas très moderne, hein. Les épicuriens ne cherchent pas l'explication. Ils cherchent une explication qui apaise. Mais au deuxième étage de la fusée, le premier étage est constitué par des dogmes absolument intangibles. Rien après la mort, tout est fait d'atomes et de vide, les dieux existent, ils sont faits d'atomes, ils n'interviennent pas dans notre vie, etc. Je lis un texte et pas deux, vu que l'heure a passé bien sûr et que j'ai trop parlé. C'est l'ouverture, le début du chant 1, c'est-à-dire la présentation du chant 1, mais aussi de l'ensemble du poème de Lucrèce. Mère des Énéades. Vénus était censée, enfin la famille d'Énée et de Jules César plus tard, Énée étant lui-même un héros de légende, était censée descendre de Vénus. Mère des Énéades, plaisir des hommes et des dieux, Vénus nourricière, toi par qui, sous les signes errants du ciel, la mer porteuse de vaisseaux, les terres fertiles en moisson, ce peuple de créatures, puisque c'est à toi que toute espèce vivante doit d'être conçue et de voir, une fois sortie des ténèbres, la lumière du soleil, devant toi, ô déesse, à ton approche s'enfuient les vents, se dissipent les nuages. Sous tes pas, la terre industrieuse parsème les plus douces fleurs, les plaines des mers te sourient, et le ciel apaisé resplendit tout inondé de lumière. Car sitôt qu'a reparu l'aspect printanier des jours, et que brisant ses chaînes, reprend vigueur le souffle fécondant du Favonius, un vent du printemps, tout d'abord, les oiseaux désertes célèbrent, ô déesse, et ta venue, et ils célèbrent ta venue, le cœur bouleversé par ta puissance. À leur suite, bêtes sauvages, troupeaux bondissent à travers les gras pâturages, et passent à la nage les rapides cours d'eau. Tant épris de ton charme, chacun brûle de te suivre où tu veux l'entraîner. Alors évidemment, Lucrèce ne croit pas que Vénus l'écoute vraiment. C'est un épicurien. C'est une métaphore de la nature dans sa force génésique et du plaisir, de la course au plaisir qui prend tous les êtres vivants au printemps. Je termine ce début. Enfin, par les mers et les monts et les fleuves impétueux, parmi les demeures feuillues des oiseaux et les plaines verdoyantes, enfonçant dans tous les cœurs les blandisses de l'amour, tu, Vénus, tu inspires à tous les êtres le désir de propager leur espèce. Merci pour votre attention. Je vous écoute avec plaisir.